Page 200. Dans cette page, il y a d'abord un texte rédigé à la troisième personne pour parler d'une fille qui s'appelle Leïla. Cela fait écho aux deux textes qu'on a vus à la première personne, page 125, dans le chapitre 5, et à la page 162, dans le chapitre 6, où on avait un narrateur qui se présentait. Le premier commençait par Ismi Youssouf, le deuxième Ismi et Christophe. Et le but, c'est de permettre à chacun qui apprend avec ce manuel de se présenter en suivant plus ou moins le modèle et en l'adaptant à son cas. Ici, on va donc aborder la même chose, mais à la troisième personne, au féminin. Ismuha Leïla. Hiya min Medina Kabira fi Janoub al-Yaman. Ismuha Adan. Donc là, ça ressemble au premier texte de la page 125. Wa ahluha min Tunis. Donc tout ça, c'est clair, hein, c'est pas la peine que je traduise systématiquement. Kanu yaskunun fi Sousa. واليوم يسكنون في عدن أبوها بائع متجول. Alors là c'est nouveau. أبوها, son père, est بائع متجول, ça veut dire vendeur ambulant. وأمها خياطة, et sa mère est couturière. ولدت في عدن, donc elle est née à عدن. وعمرها اليوم 20 سنة. لها أخ واحد وأخت واحدة. Ça ressemble au premier texte. أخوها اسمه رشيد. Donc son frère s'appelle Rachid. وأختها اسمها سلمى. Et sa sœur s'appelle Salma. هي طالبة في الفلسفة. في جامعة ابن سينا. Bon, là, il n'y a rien de nouveau, tout est clair. وهي تتكلم العربية والإنجليزية والألمانية والإسبانية وتتعلم الفرنسية واللاتينية واليونانية. C'est toujours le même programme que la page 125. وهي تدرس وتعمل في وقت واحد. Au lieu de « fi waqtin wahid », on peut dire « fi nafsil waqt ». C'est la même chose. « Ta'amal fi mat'am faransi masa'a kulli yawm ». Ça, c'est comme le premier texte. « Ta'amal li annaha faqira wa ahluha fuqara ». Donc, elle travaille parce qu'elle est pauvre et ses parents le sont aussi. « Fil jami'a » تدرس الفلسفة اليونانية والأوروبية القديمة والحديثة. Donc ça on l'a déjà vu à la page 125 à la première personne. تحب الفلسفة وتحب كل العلوم. Là aussi on a déjà vu. كل يوم تذهب إلى الجامعة بالسيارة لأن الجامعة بعيدة. Là aussi, c'est comme le premier texte. بعد الدرس تذهب إلى المكتبة وبعد المكتبة ترجع إلى البيت فتشرب الشاي وتأكل قليلا وتذهب إلى المطعم للعمل. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau sauf la réécriture à la troisième personne. On continue pour voir. عندها في البيت computer jadid. Donc elle a un nouvel ordinateur. On aurait pu dire hasoub, ça se dit, ou ordinateur, mais bon, computer, c'est le premier mot qui s'est répandu et beaucoup l'utilisent encore. Wa kul yawm, et on pourrait dire wa kul yawmin, ça serait plus scolaire. وكل يوم تتجول فيه بالإنترنت وفي بعض الأحيان تكتب رسائل إلى أصدقاء في كل مكان في العالم. C'est vraiment très proche du texte de la page 125. أصدقاء لا تعرفهم وهي سعيدة بشكل عام. بشكل عام, donc d'une manière générale. Et vous pouvez très bien faire la même chose avec le texte de la page 162, essayer de le reprendre et l'écrire à la troisième personne, au masculin, au féminin. Et le résultat ne risque pas de poser beaucoup de problèmes. C'est une question de maîtrise de l'utilisation des pronoms personnels. Bien, alors en bas de la page, il y a d'abord أمثال وتعابير وأقوال مأثورة. Donc tout ça c'est pour dire des citations, des proverbes, des expressions, des citations. الجار قبل الدار. Alors là, tous les Arabes connaissent ce proverbe. الجار قبل الدار. Littéralement, ça veut dire le voisin avant la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solidarité entre voisins s'impose. Et ça veut dire que pour permettre à cette solidarité de s'exprimer, il faut s'entendre avec les voisins. Donc, avant de décider d'aller habiter dans une maison, il faut se renseigner sur le voisinage. Est-ce possible de cohabiter avec eux ou non? Actuellement, on choisit son logement sur Internet. Oui, parfois on a des surprises. Il y a une variante, el-jar thumma ad-dar, le voisin et ensuite la maison. Bon, ça revient à dire pratiquement la même chose. Et on reste avec le voisin, et un proverbe très ancien, bon, tout le monde ne connaît pas. Qad yu'khadh al-jar bi dhanb al-jar. Yu'khadh, ça veut dire être pris. Mais ici, dans le sens d'être, comment dire, d'être poursuivi par les autorités, d'être persécuté, de payer pour la faute d'un voisin. Là, ça se dit à propos d'une situation de dictature, de répression aveugle. Cette idée est très ancienne. Elle est même mentionnée dans le Coran par un verset très célèbre, wala taziru waziratun wizra ukhra. Donc on ne paye pas pour la faute de quelqu'un d'autre, en substance. Cette idée aussi émerge dans le discours tenu par un gouverneur face à une région rebelle, et il y a un discours très célèbre qui date du 7e siècle d'un gouverneur omeyyade à Bassora qui a dit quand j'envoie mes hommes chercher un coupable, ils ne reviennent pas les mains vides. S'ils ne le trouvent pas, ils prennent quelqu'un d'autre. Et quelqu'un dans l'assistance, et il lui a rappelé le verset coranique en question. Il lui a dit, mais tu es qui pour décider de faire autrement que ce qu'on enseigne dans le Coran, etc. Et cet homme était recherché à la suite et il a payé pour cette audace quelques semaines plus tard. Le proverbe suivant reprend la même syntaxe que les deux premiers. Ar-rafiq qabla at-tariq. En fait, souvent on l'associe au premier. On dit al-jar qabla ad-dar wa ar-rafiq qabla at-tariq. Ar-rafiq qabla at-tariq, ça veut dire le compagnon avant la route. Et il faut choisir avec qui faire le voyage. Bon, c'est une image. Ensuite, choisir la destination. Si on fait le contraire, on risque de ne pas achever le voyage. Et ça va de soi. Ça peut valoir pour n'importe quel projet de vie. On veut faire des études, ce n'est pas le diplôme qui compte, mais le contenu des études. On veut se marier, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le statut de marié qui compte, mais avec qui ? On veut créer une entreprise, ce n'est pas ça l'essentiel, mais avec qui ? Ça sera fait pour être sûr que ça réussira, etc., etc. Et toujours la même syntaxe, « as-sadiq waqt adh-dhiq ». Là, il y a trois mots en français, c'est long. Hein. On reconnaît ses amis ou ses vrais amis dans la difficulté ou en temps de difficulté, etc. L'anglais, c'est joli. Hein. « A friend in need is a friend indeed ». Alors l'arabe aussi, c'est court et très parlant. « As-sadiq waqt adh-dhiq ». L'ami, sous-entendu, apparaît, on le trouve, au moment de quoi ? « Avir », »,« avir », c'est, si on prend le mot isolé, loin de tout, sans contexte, ça indique l'étroitesse. Mais ici, ça veut dire quoi ? C'est quand la vie devient étroite, et c'est quand il y a des difficultés. Donc, « as-sadiq waqt adh-dhiq ». Après, il y a quelques slogans politiques. On va les répéter n'importe où, n'importe comment. Hein. Et surtout, si vous le faites, ne dites pas que vous l'avez appris avec moi. Hein. Alors, il y a le slogan qui s'est répandu en 2011, lors de ce qu'on a appelé le printemps arabe. « Al-Sha'ab yurid isqat al-nizam ». Donc, « Al-Sha'ab yurid » Le peuple veut faire tomber le régime. Voilà, ça a démarré en Tunisie et s'est répandu très très vite. Hein, lorsque les Égyptiens l'ont adopté, ça a pris une ampleur considérable. Bon, on connaît la suite. Et à cette époque-là, il y avait des panneaux, des affiches, qui portait un mot, un impératif, « irhal ». On a traduit ça en français par « dégage ». D'où le dégagisme par la suite. Alors, « irhal ». On a trouvé aussi, on a entendu « silmiye », pacifique, « hurriye », liberté. Bon. Il y a un autre slogan qui est ancien. La charqiyya wa la gharbiyya. Ni de l'Est, ni de l'Ouest. Ni oriental, ni occidental. Ni Est, ni Ouest. Et si vous voulez, cette idée convient à des courants de pensée nationalistes ou militantes islamiques. Donc on l'appelle maintenant islamiste. Bon. Oui, et cette séquence se trouve dans le Coran, mais dans un autre sens. On ne le voit plus beaucoup, hein, ce slogan. Mais ça a existé, on peut trouver des images d'archives avec de grands panneaux où il est écrit « La charqiyya wa la gharbiyya ». C'était à une époque où le monde était bipolaire. Il y avait l'Union soviétique et les États-Unis. Bon, les choses ont changé depuis. Alors, la colonne suivante, Shi'arat Siyasiya, des slogans politiques. Là, c'est pareil, hein, il ne faut pas les utiliser n'importe où. Hein. Alors, comment dire vive ? Vive, on utilise un verbe qui veut dire il vit ou elle vit. Ça dépend du sujet. Donc, Tahya. Tahya al-Démocratie, vive la démocratie. Bon. Tahya al-Thawra, vive la révolution. Tahya al-Malakiyya, vive la monarchie. Supposons qu'on est contre la monarchie, comment on va dire « Abba » C'est pareil, c'est un verbe. Et le verbe cette fois dit « tomber ». Tasqut al-Malakiyya, donc « Abba » la monarchie. Yahya al-Qaïd, ça c'est vive le chef, le leader. Yaskot Ataria, donc là c'est Abba, le tyran. Yaskot al-Ihtilal, Abba l'occupation. Alors il y a un slogan qu'on a entendu pas mal dans certains régimes où le culte de la personnalité, à un moment donné, était très fort. Berouh waddam, neuf dit qu'il y a un tel. Supposons qu'on a un dictateur qui s'appelle Colombo. Alors le slogan sera Berouh waddam, neuf dit qu'il y a Colombo. Et c'est scandé par la foule et ça fait plaisir à certains. Alors, il y a aussi la. La, non, a. La, les. Donc, la, les ta'ifiyyah. Non au communautarisme, au confessionnalisme. La, les l'istislam. Non, comment dire, à la capitulation. La, les l'istamar. Non au colonialisme. La, les l'ihtilal. Non à l'occupation. Et un rappel, Urhal dégage et Silmiye pacifique. Allez, on va se détendre avec quelques poèmes célèbres et qui sont devenus presque des proverbes, enfin en partie. Le premier vers est d'Al-Mutanabbi. C'est pour beaucoup le plus grand poète, si ça a un sens de dire ça, de la poésie arabe classique. Il est mort en 965. Le vers dit « Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu, tajri riyahu bima la tashtahi s-sufunu. » Littéralement, tout ce qu'espère un homme ou un être humain, il ne l'obtient pas. Le vent va là où ne le souhaitent pas les marins ou les bateaux. Cela revient à dire, le vent n'écoute pas les marins pour savoir où elle est. Et tout ce que l'on souhaite n'est pas forcément réalisable. Alors cette deuxième partie, le deuxième hémistiche, est devenu un proverbe. Il y a une lecture différente. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. Dans ce cas, السفن serait le pluriel de سفان. Ça veut dire matelot, marin. Et pluriel سفن viendrait de سفن, une des formes de pluriel possible pour سفان, pour la nécessité du poème, la dernière lettre a été supprimée. C'est possible, mais couramment, les gens le lisent comme étant As-Sufun. As-Sufun, les bateaux. Le deuxième vers est le début d'un long poème d'un poète qui s'appelle At-Tagrai, qui est mort au début du XIIe siècle. Alors il dit « U'allilu nafsa bil amali arqabuha » Ma adhiq al-aish lawla fushatu al-amali. Cette deuxième partie du vers, le deuxième hémistiche, est devenue quasiment un proverbe. Ma adhiq al-aish lawla fushatu al-amali. Alors l'ensemble du vers, il dit quoi? Littéralement, il dit je me console avec les espoirs que je guette. Et il ajoute comme la vie serait étroite, insupportable, sans cette ouverture qu'offre l'espoir. Bon, ça veut dire, en gros, je m'accroche aux espoirs. Sans eux, la vie serait accablante, insupportable. Et en français, on dit « l'espoir fait vivre ». Le troisième vers, c'est d'Al-Ma'ari, qui était de la ville de Ma'arat al-Nu'man, qui se trouve entre Damas et Alep, et qui est mort en 1044. Alors il dit, إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. Littéralement, si tu veux trouver et réunir toutes les beautés sous-entendues dans un seul visage, alors dans le visage de celui que tu aimes, il y a toutes les beautés. Bon, ça revient à dire, si tu cherches la beauté incarnée, regarde le visage de ton bien-aimé. Ça me rappelle ce qu'a dit le danseur russe Nureyev de mémoire, je cite. Il a dit, si vous voulez rencontrer la personne la plus extraordinaire au monde, il vous suffit de regarder dans le miroir. L'approche est la même. Le quatrième vers est d'El-Mutanabbi encore. D'ailleurs, El-Mutanabbi signifie, c'est lui qui s'était donné la qualité de prophète, parce que dans sa jeunesse, à un moment donné, il disait que lui aussi, il pouvait écrire un livre aussi, peut-être plus puissant que le Coran. Et alors, il a été emmené devant les juges, il a dit, tu maintiens ce que tu dis? Et il s'est rétracté, mais ce surnom est resté. On l'appelait Abu Tayyib par son surnom. Il s'appelait Ahmed en réalité, mais toujours on a parlé d'El-Mutanabbi. C'est lui qui se prétendait ou qui aspirait à être prophète. Alors il dit, « إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام » Littéralement, quand les esprits sont grands, les corps s'épuisent à réaliser ou à en réaliser les volontés. Ça revient à dire, quand l'esprit est exigeant, voit grand, porte de grandes ambitions, le corps emporte le fardeau. Les grandes ambitions épuisent physiquement ceux qui les portent. C'est à méditer. Et sur ce, on va s'arrêter sur cette page 200.